écoutez France Culture, il est 7h, le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. La canicule de retour en France dès aujourd'hui sur la moitié sud, en milieu de semaine à Paris, avec notamment la question des urgences médicales, alors que 200 services d'urgence sont toujours en grève sur l'ensemble du territoire. Nous irons en Seine-Saint-Denis dans ce journal reportage.
Les États-Unis sont également touchés par une vague de chaleur exceptionnelle, elle a déjà fait 3 morts.
Avec des pics à 45 degrés, nous irons à New York. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky remporte la victoire aux élections législatives hier. Reportage de notre envoyé spécial à Kiev, Claude Bruyot. Et puis nous irons à Toulouse à la fin de ce journal. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, la ville célébrait hier cet anniversaire à la Cité de l'Espace. La canicule de retour en France avec un bond des températures annoncé aujourd'hui sur la moitié sud et de possibles records de température à Paris en milieu de semaine. Une nouvelle vague de chaleur qui survient alors que 200 des 500 services d'urgence sont toujours en grève en France, 4 mois après le début du mouvement de protestation pour dénoncer le manque de personnel et de moyens. Dans ce contexte de crise, les hôpitaux pourront-ils prendre en charge un éventuel afflux de patients? Lisa Guyenne s'est rendue à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis en banlieue parisienne.
On finit rincé de notre journée. Rincé, énervé, pas content de la qualité du travail effectué.
Yasmina est infirmière depuis 3 ans aux urgences de Saint-Denis. Un service en grève, comme beaucoup d'autres, touché par la crise et le manque de personnel.
Il n'y a pas longtemps, moi je me suis retrouvée à faire 90 passages. En 7h30, ça donne un patient toutes les 5 minutes. Quand on a des vies en jeu, en fait, on vit avec la pression du temps. Et on vit avec la pression de l'erreur médicale parce qu'on va trop vite en fait.
Et malgré les promesses du ministère pour améliorer la vie des urgences, ici les jours passent et se ressemblent comme avant la grève. Jeudi dernier, Mélanie, aide-soignante, a été frappée au visage par une patiente psychiatrique attachée sur un brancard pendant 17 heures d'affilée.
Donc elle nous a dit de la lâcher, de la laisser tranquille, qu'elle en pouvait plus d'être attachée depuis autant d'heures. Et c'est là qu'elle m'a mis une grosse gifle au niveau de l'oreille gauche. Et j'ai même entendu un sifflement, j'avais l'oreille chaude pendant même quelques heures. Moi, personnellement, si je suis attachée 17 heures sur un brancard, les mains, les pieds et le ventre, je pense que j'aurais eu aussi la même réaction qu'elle.
Ironie du calendrier, le jour même de cette agression, Mélanie et les autres soignants avaient rendez-vous avec la direction de l'hôpital pour parler de la crise.
On a eu la réunion à 13h et à 16h, je me suis fait agresser. Donc, des moyens d'urgence, on a beau leur expliquer qu'on en a besoin maintenant, on nous renvoie au 30 septembre, mais malheureusement, les patients, ils vont pas se dire on attend 30 septembre pour revenir aux urgences ou faire l'activité des urgences, elle continue.
Depuis un mois, elle augmente même à Saint-Denis. Avec la fermeture des cabinets médicaux et des centres médico-sociaux, les urgences restent bien souvent la dernière porte ouverte pour de nombreuses personnes.
Un reportage France Culture signé Lisa Guyenne. Selon les prévisions de Météo France, 21 départements du sud-ouest et du centre-est sont désormais en vigilance orange canicule ce matin. Nous ferons un point météo à la fin de ce journal. Les agriculteurs et les éleveurs sont fortement touchés par la sécheresse et ce matin, dans le journal Le Parisien, le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, annonce demander le déblocage anticipé d'1 milliard d'aides de la PAC, la politique agricole commune, un versement qui serait effectif au 16 octobre prochain. Nous y reviendrons dans le journal de 8h sur France Culture. Une vague de canicule qui touche aussi les États-Unis avec des températures parfois proches de 45 degrés du Midwest à la frontière canadienne jusqu'à la côte atlantique. Depuis hier, les 3/4 du territoire américain souffrent de la très forte chaleur. À New York, Loïc Loury.
38 degrés à New York ou à Washington, 45 en ressenti par endroit à cause de l'humidité. La canicule est en train de frapper durement les États-Unis. 150 millions de personnes sont concernées. Ces derniers jours, ces fortes chaleurs ont entraîné la mort de 3 personnes, dont 2, avant même que les pics de température ne soient atteints. Le gouvernement, face à cette vague courte mais intense, multiplie donc les messages de prévention. À New York, 500 centres ont été ouverts pour que les habitants puissent se rafraîchir. Le triathlon prévu aujourd'hui a lui été annulé, tout comme les commémorations à Times Square du cinquantenaire de l'alunissage d'Apollo 11. Une canicule qui concerne jusqu'à certaines régions de l'est du Canada et qui rappelle qu'il y a quelques semaines, c'est l'Alaska à cheval sur le cercle polaire arctique qui enregistrait des températures records. Cette vague de forte chaleur, la première de l'été, doit se maintenir jusqu'à ce soir.
Loïc Loury à New York pour France Culture.
7h04, la suite du journal de Sophie Delpont sur France Culture. Nous partons maintenant en Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a gagné un nouveau pari.
Oui, 3 mois après sa victoire triomphale à la présidentielle, son parti est arrivé largement en tête du scrutin législatif qui se déroulait hier. Avec 44% des suffrages, il devance largement le parti pro-russe crédité seulement de 11%. Et même si le parti du président Zelensky cherche un ou des alliés maintenant pour gouverner, le changement de tête voulu par le nouvel exécutif aura bien lieu. Pour autant, hier soir, le chef de l'État ukrainien avait la victoire modeste, Claude Bruyot.
C'est un Volodymyr Zelensky modérément triomphateur qui s'est présenté hier soir devant ses partisans. Pourtant, la victoire très nette de son parti dans ses législatives anticipées, si elle n'est pas totale, faute d'une majorité unique, confirme néanmoins que son discours de changement de gouvernance pour l'Ukraine passe toujours. Mais la retenue du président Zelensky s'explique aussi par le fait qu'il sait maintenant que son mouvement va être attendu vraiment sur des actes, comme il l'a rappelé à ses fans hier soir.
Je pense que toutes ces initiatives législatives que nous avons promises, nous les réaliserons. Ce soir, l'équipe que nous sommes peut se reposer, mais pas trop, car demain, on travaille sur tout ce que les gens nous ont demandé. Ça vous intéresse, n'est-ce pas? Alors ne vous reposez pas trop.
Volodymyr Zelensky a présenté ses législatives comme un troisième tour après la présidentielle victorieuse du printemps et avant les municipales de l'automne. Mais avant cela, il a déjà fixé 2 grands axes de travail aux futurs députés de son camp, donner davantage de moyens aux organismes de lutte contre la corruption et participer activement aux tentatives de résolution du conflit dans le Donbass.
Et nous retrouvons Claude Bruyot en direct de Kiev dans 1 heure sur France Culture. British Airways a coupé ses liaisons avec le Caire. La compagnie aérienne britannique a suspendu tous les vols entre Londres et la capitale égyptienne pour 1 semaine. En cause, un risque accru d'attentats terroristes visant l'aviation civile. La compagnie allemande Lufthansa lui a emboîté le pas, annulant ses vols pour la journée d'hier seulement. Et si la compagnie nationale égyptienne Égyptair a annoncé affréter des avions d'une plus grande capacité pour relier Londres et compenser les vols annulés, cette nouvelle est difficile à encaisser pour le secteur du tourisme en Égypte, un secteur déjà malmené par plusieurs années d'instabilité dans le pays. Martin Roux nous appelle du Caire.
11 millions de vacanciers ont visité l'Égypte en 2018, un nombre record qui avoisine les 15 millions de touristes dénombrés dans le pays en 2010 à la veille de la révolution. La décision de British Airways intervient donc alors que le secteur du tourisme se remet lentement d'années bien difficiles. Depuis la révolution en 2011, l'instabilité politique et la recrudescence des attentats terroristes ont découragé nombre de voyageurs. Ils n'étaient qu'à peine plus de 5 millions en 2016, l'année suivant le crash d'un charter russe au départ de Sharm el-Sheikh. L'organisation État islamique avait revendiqué cet attentat et dans la foulée, la Russie mais aussi la Grande-Bretagne avaient suspendu leur vol direct à destination de cette station balnéaire. Des liaisons directes qui n'ont depuis pas repris. Si les vols opérés par British Airways vers le Caire doivent quant à eux reprendre vendredi, cette interruption porte toutefois un nouveau coup dur à un secteur encore fragile.
Martin Roux au Caire pour France Culture. En France, c'est une amende record dans la grande distribution. Bercy a annoncé hier réclamer 117 millions d'euros au groupe Leclerc. Le ministre de l'économie accuse le géant français de faire pression indûment sur ses fournisseurs. La principale entité visée par cette décision est la centrale d'achat de Leclerc, Eurelec, que Bercy accuse de pratiques commerciales abusives pour contourner la loi française et imposer des baisses de tarifs très importantes sans aucune contrepartie à certains fournisseurs, selon ce communiqué. 50 ans après l'alunissage du module lunaire, le 21 juillet 1969, Toulouse, capitale européenne de l'espace, a célébré hier cet anniversaire à la Cité de l'espace. Le musée a accueilli gratuitement 20 000 spectateurs pour évoquer notamment l'avenir de l'exploration lunaire. À Toulouse, Stéphanie Glésis.
Hier, les 20 000 spectateurs ont photographié sous toutes les coutures le module lunaire reproduit en taille réelle dans le jardin de la Cité de l'Espace. Si l'homme retourne sur la Lune, ce n'est pas forcément pour des raisons scientifiques, le journaliste François de Closet.
Tout simplement parce qu'on voit se reconstituer à l'échelle du monde la configuration qui était celle de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Simplement maintenant, c'est la Chine qui tient le rôle de l'URSS. Et dans ce défi à deux, eh bien, la Lune, c'est un peu l'instance suprême sur laquelle il faut affirmer sa puissance. Et donc, tout naturellement, de même que l'Amérique voulait aller sur la Lune, la Chine veut aller sur la Lune pour être la première sur Terre.
Le petit dernier des astronautes européens, l'allemand Matthias Maurer, espère poser le pied sur la Lune avant d'aller sur Mars.
Cette technologie-là, elle n'est pas encore développée. Donc, c'est mieux si on développe cette technologie sur la Lune. S'il y a un problème, je rentre dans 3 jours vers la Terre. Il n'y a aucun problème. Mais si je vais vers Mars et la technologie ne fonctionne pas, si elle faille, moi je suis mort.
Scientifiques et astronautes veulent donc retourner sur la Lune pour atteindre Mars, aller dans la grande banlieue de la Terre, avant d'attaquer un long voyage spatial.
Stéphanie Glézis, le temps marqué par une forte hausse des températures annoncées dans le sud aujourd'hui et le centre du pays. 21 départements en vigilance orange. Ce matin, notamment le Tarn-et-Garonne, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Ce matin, déjà 23 degrés à Toulouse, 27 degrés à Narbonne. Cet après-midi, on devrait atteindre en moyenne 30 à 40 degrés sur la moitié sud. Au nord de la Loire, en revanche, les températures sont encore assez fraîches, autour de 15 à 18 degrés ce matin, notamment à Paris. 32 degrés cet après-midi sur l'Île-de-France.